mettre la panique. Hein. Donc c'est vrai que la mère, du coup, ben oui, si elle s'est laissée entraîner dans le côté émotif, sans faire attention d'être... c'est sûr que son mal-être peut se ressurgir. Pour moi, c'est ça, c'est un espace de déclenchement qui va aller chercher ses mal-être ou ses bien-être, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des mères aussi qui nous racontent, qui ne chantaient pas les personnes, ont demandé aux grands-mères, qui étaient souvent beaucoup plus à distance de tous les grands événements, qui allaient traverser des choses. Donc, ils étaient plus dans la distance neutre, qui pouvait passer l'émotion au plus saine dans l'endormissement. Parce que c'est sûr que moi, on a des témoignages là-dessus, de berceuses qui peuvent plutôt, qui est mal dans un état de non-endormissement profond, parce que justement, ce qu'il a perçu, c'est la cause de sa mère, et c'est pas la tranquillité. Hein. Ça, on ne le prend pas assez aux jeunes mamans qui doivent chanter des berceuses, d'ailleurs, parce qu'il faut faire gaffe à certaines berceuses. Hein. C'est eux qui peuvent mener la décharge plutôt que l'endroit de la tranquillité.
Alors moi je voulais dire que j'ai été vraiment beaucoup plus formée par le chant que par le conte, ça c'est évident, j'ai toujours baigné là-dedans. Alors il y a un truc dont on n'a pas parlé quand même, c'est les chansons des cours d'école. Parce que vraiment il y avait quand même tout un répertoire qui accompagnait
les chants d'école.
Voilà. Donc moi je me souviens de tout ça, je me souviens de tous les chants de Colo, n'en parlons pas, c'est un répertoire énorme, je pense que tout le monde a plus ou moins. Et moi j'ai eu aussi les chants de bizutage étant étudiante, il y avait aussi tout un répertoire qu'on se transmettait, on copiait les paroles et tout, on les apprenait. Et d'autre part, les chants d'église, les chants religieux. Et je me demandais si, d'une façon générale, il n'y a pas aussi des chants funéraires qui accompagnent la mort et le départ, le rituel de...
Tout à fait. C'était, moi, je parlais de rituel de façon générale, parce que, on va rentrer dans la classification de Van Genep, il y a 92 pages de classification. Hein.
Ouais.
Donc c'est énorme. C'est ça que je dis, on pourrait faire un cycle complet, ne serait-ce que sur les chants. On n'ira pas au bout, parce que c'est des catégories de chants, il y en a presque pour tout. Pour manger, pour boire, pour dormir, pour la mort, pour la vie, alors chaque événement, il y a systématiquement des chants qui s'y collent.
Et ma question, c'est qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Parce que moi, il y a une époque où je portais mes petits-enfants en voiture, on chantait tout le temps, puis maintenant, non, c'est...
Maintenant, il y a l'autoradio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un espace du choix individuel de ce qu'on a envie d'écouter. Donc, on se retrouve dans des voitures avec chacun son Walkman sous les oreilles, personne n'écoute la même chose de toute façon. Et du coup, on est dans des espaces, je prends l'extrême, volontairement. Hein. Mais je crois qu'on est dans un endroit, alors pour moi, est-ce que c'est une perte ou est-ce que c'est un bien, j'en sais rien, je ne veux pas être juge là-dessus. Hein. Mais on est quand même dans un endroit où, bien sûr, de faire ensemble, de partager émotionnellement quelque chose ensemble, et de moins en moins pratiqué. C'est ce que l'idée de communauté n'est plus la même. Hein, on est sur des transformations complètes de la représentation de communauté. Autant la communauté, jusque dans les années 50, était vraiment fermée, close, et chacun essayait de défendre son identité là-dedans, mais on cherchait surtout à faire l'identité de la communauté. Aujourd'hui, on est plutôt en train de chercher à faire notre identité. On nous le demande, d'ailleurs. On ne laisse pas le choix, on dit qui vous êtes, quoi. Qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, c'est la première question qu'on a en général. Ce n'est pas le cas dans une communauté, hein, vous savez, de quelle communauté vous êtes. Hein. Si vous êtes encore dans le Pays Basque, on vous dira, ah, vous êtes le fils de telle maison. Hein, c'est plus le nom de personne, mais vous êtes la descendante de quelqu'un qui habitait cette maison. Donc là, on est bien dans une forme traditionnelle de reliance systématique au groupe. Donc pour moi, le chant aujourd'hui, bien sûr, il a extrêmement changé, parce que la colo, ben, c'est sympa, mais pareil, les gamins, est-ce que c'est pour faire unité ou est-ce que c'est pour... On est toujours dans des champs comme ça qui changent, qui mutent avec les transformations sociales. Hein. Donc les champs funéraires, par exemple, c'est pas la même chose quand on incinère quelqu'un que quand on a un enterrement où c'est une reconnaissance de la société par rapport à quelqu'un. Hein, aujourd'hui, on incinère souvent avec la famille, très très restreinte, mais il n'y a pas le rituel communautaire. Tout le village est là pour mettre dans le monde des morts, c'est dans la ville des morts au cimetière. Hein, c'est l'espace de la reconnaissance aussi au cimetière. Hein. Donc là, le chant était essentiel. C'était un chant qui faisait adhérer tout le monde sur cette reconnaissance. Donc on perd le rituel, les rituels du quotidien, les rituels du groupe ont beaucoup changé. deviennent folkloriques, et, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire muséographiques, ils n'ont plus de fonction contemporaine. Donc on les garde plutôt sur une part artistique que sur une part d'efficacité. Il y en a d'autres, hein, on ne connaît pas tous. On est plus souvent dans la tradition orale. Si, peut-être certains rappeurs, certains
qui improvisent.
La Marseillaise est écrite, hein. Moi, je travaille, là vraiment je parle de chants de tradition orale, hein. C'est des chants qui ne sont pas passés par
les écrits.
Parce que sinon, bien sûr, on pourrait, si on développe en plus à côté le chant écrit, là, il y en a des quantités. Hein.
Mais là, tu évoquais les chants funéraires, c'est-à-dire que dans la tradition, il y avait des chants funéraires en dehors de tout chant religieux, des chants pour accompagner.
Il y a encore, c'est-à-dire qu'il y a, certaines sociétés où quand quelqu'un est mort, on envoie les pleureuses et qui vont chanter tout en pleurant. Jusqu'à ceux
que j'ai pas.
Dans la nôtre, non, au moins, parce que justement, on n'est plus dans cet espace. Bon, des chants, il y a des quantités. C'est-à-dire que bon, si vous allez chez les Inuits, c'est évident qu'il y a des chants de gorge, par exemple, qui sont des vrais affrontements. Hein. Ou les femmes, d'ailleurs, chantent aussi comme ça. Et c'est, les femmes chantent les oiseaux, en fin de compte, mais les oiseaux très rock qui sont. Et c'est un vrai combat, c'est-à-dire celui qui va.
Ces chants diphoniques, ce sont les premiers connus, c'est extraordinaire.
Ce n'est pas les premiers connus, je pense qu'il y en a d'autres. Les chants diphoniques, déjà, c'est une sacrée élaboration, hein, des chants beaucoup plus rustiques que ça. Voilà, mais c'est-à-dire que, bon, on est dans des espaces, c'est vrai qu'il y a des techniques après. Hein. Les chants diphoniques, par exemple,
c'est
très, très
complexe.
C'est une
communion avec la nature dans ces peuplades.
Souvent, c'est un espace.
Ça retranscrit la nature à travers le chant.
Ça peut être comme ça, ça peut ne pas être. Il y a des traditions, ces traditions amérindiennes, par exemple, l'enfant qui naît. Être, par exemple, lavé avec une peau, un plumage d'animal. Hein. C'est-à-dire quand il sort du ventre de la mer, on le lave avec cet animal, et c'est-à-dire qu'après lui-même va devoir inventer son chant à partir de cet animal, enfin du cri qui est l'animal, hein, et de l'oiseau qui parle tout le temps. C'est des plumages. Voilà, donc ça veut dire que lui, dans sa propre imagination, il a son propre chant en relation à un oiseau qui lui est presque totémique, hein, c'est pas le totem dans le sens classique, mais. C'est son totem à lui. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que même dans les noms amérindiens, on a souvent des noms composites avec des noms d'animaux, des noms de. Donc c'est tout ça, c'est des choses qui vont engager des relations, mais c'est. Je dirais, il faudrait faire le tour du monde, et chaque fois, c'est des situations différentes. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est pas évident. C'est un truc énorme, le chant. Hein. Il existe partout, une fois de plus. Et chaque peuple, selon ce qu'il va faire, va avoir des chants très spécifiques pour telle chose ou telle chose.
Je crois que. Oui, pardon.
Quand je dis que je crois que ce qu'il faut bien sentir, c'est cette notion de émotion mise en corps, travail du rituel, essayer de faire groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chanter seul, c'est bien, on chante seul pour se rassurer, la plupart du temps, pour être moins seul. C'est créer une voix extérieure, hein, c'est un espace de. Mais souvent, le chant vraiment prend sens quand on est en communauté.
Oui.
C'est là qu'il a le plus de force, la plupart du temps. Les chorales, hein. C'est pas rien, le mouvement des chorales en France et ailleurs. D'ailleurs, c'est bien un lieu de retrouver un espace communautaire partagé. Quoi. C'est un lieu où on va partager de l'émotion, de la rythmicité, du corps, du souffle. C'est pas rien, hein, pour un monde qui est aujourd'hui aussi visé dans l'individualisme. C'est des lieux qui peuvent être très, très bénéfiques. C'est des lieux qui peuvent être même, qui peuvent établir des axes.
Hein, oui. Même si ce n'est pas dit d'une façon formelle, même si ce n'est pas ressenti de façon formelle, il y a donc cette thérapie inconsciente qu'on a vue là, avec la personne de la mère, ce qui est pratique. Et il y a aussi, moi je pense, dans le champ des travailleurs, il y a aussi, je pense, une façon de poser sa respiration qui doit coordonner l'effort et l'alléger. Et tout ça, c'est inconscient, et c'est quand même extraordinaire qu'on le fasse d'une façon comme ça, spontanée, sans savoir que le but aussi, c'est ça, malgré tout.
Ça part d'une pulsion, hein.
Ouais.
Vraiment, je crois qu'il y a vraiment cet espace essentiel quand on travaille sur les travaux comme ça, très dur et très rythmé, il y a une pulsion qui se met en place.
Il y a un souffle.
Le souffle au départ, c'est que du souffle, puis ce souffle, on va l'alléger en mettant quelque chose de l'ordre du champ.
Ouais. Je voulais savoir si vous pensez, il y a dans les sociétés traditionnelles le rôle du conteur, à qui est dévolue la mission de transmettre le conte. Est-ce qu'il y avait aussi le rôle du chanteur? Dans l'exemple que tu as donné du dépiquage-là. Mm-hmm. Est-ce que celui qui chante travaille aussi?
Oui. Parce que quelque part, s'il ne travaille pas, de toute façon, il ne peut pas rythmer.
Voilà,
il est dans la pulsion. Hein. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans la bonne pulsion, il ne peut pas coordonner le groupe. Hein.
D'accord. Donc le chanteur n'est pas quelqu'un d'extérieur.
Non, c'est vraiment quelqu'un. Par contre, il va être connu pour sa régularité, son endroit, de la justesse dans la rythmique. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le bon chanteur, mais c'est celui qui va chanter. C'est comme, vous savez, en musique, quand on en fait un peu, on a les gens qui sont très bons au niveau rythmique et qui sont très mauvais au niveau mélodique, et puis inversement. Là, on va chercher celui qui est bon dans la rythmique pour le travail de métier. Hein. C'est celui qui va être capable de porter la rythmique tout au long. Voilà. Et la bonne rythmique, c'est-à-dire celle qui met encore le mouvement, mais sans le fatiguer. Il se faisait engueuler, les chanteurs, hein, s'il accélérait trop. Parce que quelque part, bah, tout le monde se crevait, quoi, et au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Donc il va être capable d'envisager même dans sa rythmique le maintien, la durée. C'est comment ça va se jouer, quoi. Donc ça je dirais que c'est un espèce d'instinct, hein. Il y en a qui étaient meilleurs que d'autres. Donc il y en a toujours, qui étaient toujours un peu les chanteurs, parce qu'ils étaient reconnus pour cette qualité de mise en mouvement très très... On se fatiguait moins avec lui qu'avec un autre. Voilà. Et c'est pas rien, hein, dans les chefs d'un travaux physique comme ça, c'est pas rien. Donc les qualités, c'est comme le conteur, hein. Dans la tradition, le conteur, il est reconnu parce que, quelque part, il va porter un public, hein. Il va l'amener, il est capable de faire entrer les gens en même temps. Le chanteur, c'est pareil, il est reconnu pour différentes fonctions. Et c'est des fois le même. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, c'est souvent le griot est un chanteur et un conteur. Hein. C'est un musicien, un chanteur et un conteur. C'est quelqu'un d'assez complet sur l'acte de parole. Hein. Les bardes, hein, c'est des chanteurs, plus ou moins, parce que épique. Il y a toujours des moments où c'est moitié chanté, moitié parlé, et donc c'était aussi des gens qui portaient bien les prêtres. Ils apprennent à chanter dans toutes les traditions. Pour porter le rite, porter le mythe, il faut passer par l'émotion, hein, donc il faut être chanteur aussi.
Et le fado, encore cette question. Ah. Est-ce que ça fait partie du chant traditionnel?
On le connaît sous la forme écrite, hein, très élaborée. Bon, je pense que il y a peut-être des formes antérieures beaucoup plus archaïques qui étaient peut-être de tradition orale. Oui, là, on n'est pas très loin de la berceuse, mais pour adultes, je dirais, c'est-à-dire, c'est pas pour endormir, mais c'est une question vraiment de dire son désarroi, c'est-à-dire de dire sa souffrance. À terme, on est vraiment dans des chants souvent qui touchent énormément, justement, parce que c'est pas un chant de la séduction, c'est vraiment un chant de. Donc, on se fait porter, hein. Rentrer dans l'espace. Mais moi, j'en connais pas de forme orale, en tous les cas. Je connais que des formes écrites. Enfin, peut-être, mais je connais pas. Non, il y a des gens qui ont fait des travaux absolument fabuleux. Il faut les réécouter si vous trouvez des disques. C'est des gens comme Giovanni Marini, par exemple, qui a un chant fabuleux sur l'Italie, à ce niveau-là. Moi, une vraie collecte et une remise en voix. C'est-à-dire que c'est pas contenté de les collecter. Elle a fait un travail derrière de remise en voix absolument fabuleux et très juste. C'est pas vouloir coller à ce qu'était, mais vraiment travailler en même temps sur ce qui peut encore être. Et ça, c'est pas rien, hein, c'est vraiment un gros chantier derrière, de perception du social aujourd'hui, du système social derrière. C'est une vraie ethno, on est connu de milieu ethnologue d'ailleurs, un ethnomusicologiste, quelqu'un qui est très réputé. Ça fait un vrai chantier de transmission, la vraie transmission, non folklorique.
Il y a deux chandelles qui servent d'entraque, d'entraque de camionnette dans le spectacle de Dario Fo, qui est au cratère depuis.
Ouais. Puis, voilà, il y a Maria Carta, il y a des personnes comme ça qui ont vraiment bossé sur ces formes. Maria Carta, c'est plus le chant sacré.
Ouais,
on arrive à quand même des bons transmetteurs aujourd'hui. On a des gens qui ont cette qualité, qui ont le savoir et qui savent vraiment faire basculer. Bon, je pense que le mouvement. Voir musique en même temps aussi était important, c'est-à-dire que ça, au-delà du fait que c'est autre chose, parce que c'est une recomposition, hein, n'empêche qu'il forge des oreilles, c'est-à-dire qu'ils vont nous habituer à des tonalités qui ne sont pas les nôtres, à des rythmiques qui ne sont pas les nôtres. Donc à terme, on a beaucoup plus de facilité aussi à revenir à terme sur les chants traditionnels. Ouais, mais c'est très complexe, hein. Je sais qu'Ahmed Bouzine était venu l'année du colloque, c'était en 2006. Il y avait donc un groupe de joueurs de mood très occidentaux, Il voulait apprendre des gammes mauvaises. Il les connaît bien, mais pour les apprendre, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il faut revoir vraiment tout un espace de conception. On n'est pas du tout sur les mêmes tonalités, on n'est pas du tout sur les mêmes chaînes. Donc c'est-à-dire qu'il faut revoir complètement ces conceptions qu'on a intégrées. C'est ça le problème, c'est que le chant lui-même vous intègre dans des formes qui sont très occidentales, par exemple pour nous. On a aussi des formes très culturelles, tous ces chants. Voilà ce qu'on peut en dire.
Cette oralité a précédé finalement la communication écrite.
Toujours, oui. On dit que la communication écrite est la toute petite sœur de la grande communication orale. C'est-à-dire que la première trace qu'on a de l'écriture, au niveau vraiment de l'écriture, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est l'épopée de Gilgamesh, hein, à terme. Voilà. Donc, on sait très bien que l'homme parle, lui, par contre, depuis le paléolithique inférieur, un minimum. Hein, donc, je peux vous dire que quand on fait la différence sur une échelle, vous avez l'écriture, c'est ça, au bout, hein, c'est tout petit.
Les émotions s'exprimaient à travers le chant.
À travers le chant, à travers les contes, la parole. C'est le roi Bourand qui explique ça très bien. Il détecte à peu près quand le récit existe. Hein. Et c'est donc au paléolithique inférieur, il retrouve une pierre taillée, je ne dirais pas le nom parce que je ne me rappelle pas, mais qui se diffuse à une vitesse extrêmement importante. On le retrouve dans tous les chants, sur presque toute l'Europe. Et quand on veut essayer de voir comment, par le mimétisme, apprendre à tailler, c'est pas possible que ça soit diffusé aussi vite. Donc il n'y a que parce qu'on était capable d'expliquer, donc de raconter comment ça se faisait, que ça a pu aller aussi vite. Donc lui date la naissance du récit au moins à cette période-là. Peut-être avant, en tout cas. Donc c'est vraiment paléolithique inférieur, je n'ai pas en tête le calendrier, mais c'est certainement loin. C'est vraiment le début de la pierre, enfin c'est la pierre taillée, ça commence bien avant, mais il y a déjà des choses qui sont. C'est assez lointain. Le récit, la parole, bien sûr, ça remonte encore autre chose. Donc oui, la parole est intérieure systématiquement. C'est toujours ce qu'on oublie c'est souvent. Hein, c'est que, moi, je défends beaucoup ça. C'est-à-dire que la langue est boiteuse de son manque d'oralité, de manque de l'intelligence de l'oralité. C'est-à-dire que pour moi, trouver une langue juste, c'est pas de refouler les cris, parce que bien au contraire, il est très important, il faut reconnaître ses qualités aussi, mais par contre, l'écrit ne peut pas fonctionner sans l'oral. Et donc, si on n'a pas compris comment fonctionner la langue dans l'oral, on a un peu de mal à écrire, de toute façon. Dans l'illettrisme, quand on travaille, beaucoup en ce moment, c'est vélo sur les relations l'illettrisme et compte, il y a une clé qui nous a été donnée, toute bête, hein, c'est quand on décrypte les collectages qu'on va chercher chez les compteurs, il y a des compteurs qui sont très gestuels. Donc quand on décrypte et qu'on essaie de lire ce qu'on a décrypté, c'est pas vraiment génial, quoi, parce qu'il manque le corps. Il manque le contexte et il manque le corps. Mais par contre, quand il y a certains compteurs qui sont dans une qualité de parole, parce que ce sont des grands savants de la parole, même s'ils sont en alphabète, ce sont des grands savants de la langue. Et quand on les décrypte et qu'on les met sur une feuille et qu'on les lit, je peux vous dire que c'est de la littérature. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, ils sont en alphabète, ils ne savent pas l'écrire. Moi, je sais que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la rencontre avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est un comédien de groupe, hein, qui s'appelle Soliki Kouyaté. Et Soliki Kouyaté, dans un colloque, on était allé voir, on lui dit, mais comment t'as fait pour arriver, au bout de 2 ans, tu savais parler français, parler anglais, écrire et lire. Alors qu'il est arrivé griot de la tradition orale, sans rien de tout ça. D'accord ? Donc, il nous a dit, mais c'est pas compliqué, bon, depuis 3 ans, j'étudie la langue. Depuis l'âge de 3 ans, j'étudie la langue. Donc la langue, pour moi, ce n'est pas un mystère. Hein. Et quand je commence à m'intéresser à une langue, je comprends très vite dans la parole comment cette langue s'organise. Donc il est arrivé à faire un travail de récupération de temps. Et quand, si vous le connaissez, je crois qu'il est assez âgé, assez malade. Mais si vous avez encore l'occasion de le rencontrer, je peux dire que c'est un drôle de...